Mesdames, Messieurs, les origines donc de l'État terroriste et de la disparition forcée de l'Argentine dictatoriale. Il s'agit donc d'évoquer ici une articulation entre une forme d'État, l'État terroriste, et un procédé, ou plutôt un processus criminel spécifique, la disparition forcée, dont la liste des compatriotes français dont nous invoquons la mémoire constitue notre tribu nationale à une souffrance ressentie encore aujourd'hui par des milliers d'Argentins, d'Espagnols, de Paraguayens, de Boliviens, d'Uruguayens, sans compter les Guatémaltèques ou les Algériens, victimes hier des centres d'interrogatoire, des DOP et autres corvées de bois pendant la guerre d'Algérie. Et cela ne fera pas si longtemps que cela, dans les années 90, de la terrible guerre contre les maquis fondamentalistes qui a fait plusieurs milliers de disparus, de victimes de la pratique de la disparition forcée. Car il convient de soulever un grave problème. Les victimes françaises n'ont pas été des victimes inutiles. Suite à un long travail de recherche, d'investigation, grâce à la ténacité de juristes argentins comme Rodolfo Matarol, ou français comme Julia Mala, ou Louis Texier, pour ne citer que, aujourd'hui, la disparition forcée constitue un crime spécifique, un crime contre l'humanité, dont la particularité est d'être imprescriptible jusqu'à la réapparition du disparu, ce qui déclenche alors le processus judiciaire qui aboutit, comme ce fut le cas il y a quelques semaines, à la condamnation de l'ex-officier de Marie d'Alfebratis, l'ange blanc de la mort, condamné justement pour la disparition forcée et l'assassinat, entre autres, charges et victimes, des sœurs françaises Alice Daumont et Léonie Duquet. Se pose également la question de la responsabilité de ceux qui donnait les ordres au sein de l'appareil hiérarchique des forces armées argentines de l'époque. Elle devient lancinante lorsqu'on évoque la présence d'officiers français légalement intégrés à l'état-major de ces pouvoirs terroristes et à l'école de guerre de Buenos Aires, où ils assuraient un transfert de technologie, d'un management normatif de la violence dont ils possédaient le savoir-faire, celui de la guerre non conventionnelle, irrégulière, contre-insurrectionnelle, ou encore désignée comme guerre anti-subversive ou dite de la guerre révolutionnaire. C'est que l'Argentine a reçu alors un legs s'agissant des méthodes éprouvées depuis la guerre d'Indochine, d'Algérie, du Vietnam, et dont nous retrouvons encore aujourd'hui la présence au Rwanda, le dernier génocide du XXe siècle. Aujourd'hui, il existe un TPIR pour le génocide des Tutsis du Rwanda, et la justice argentine condamne pour crime de génocide des officiers supérieurs ayant participé au fonctionnement de la dictature des juntes entre 1976 et 1983. Un point commun. La même doctrine a été enseignée par ceux-là même qui l'ont appliquée. Les mêmes accords de défense, un même partenaire. Car quelque part, la conclusion est là. Plus jamais ça, nunca más, nous le devons à nos compatriotes disparus en Argentine, à leur exemplarité, c'est le devoir qui nous impose à nous les survivants, et ce, devant la conscience universelle. Alors, l'État terroriste. État militaire et État terroriste. Il existe une différence notable entre un État militaire et un État terroriste. Ce dernier, comme le détermine José Luis Duarte, l'actuel secrétaire d'État aux droits de l'homme de la République argentine, a besoin d'un niveau bien plus élevé de contrôle de la société civile que le premier. Il nécessite en même temps que la chaîne qui produit et assure la propagation de ses effets, l'acceptation et le consensus forcé, fondé sur la terreur, ne souffre de la moindre altération et contestation qui la détourne de ses objectifs. L'État militaire construit son pouvoir à travers la militarisation de la société, tandis que l'État terroriste construit son pouvoir en militarisant la société, en la désarticulant à travers la peur de l'horreur, d'une horreur réelle qui accompagne de façon conjointe l'élimination de milliers d'êtres humains et de structures politiques, sociales, syndicales, avec une vision stratégique, la contre-insurrection. Et plus loin de souligner que l'élimination physique d'une partie importante de la population civile et l'organisation d'appareils coercitifs clandestins et permanents en marge de toute légalité formelle afin d'assurer ici et maintenant l'ordre social imposé en constitue la finalité immédiate. Cette mécanique, cependant, ne renvoie pas à on ne sait quelle anarchie militaire et policière. Elle repose sur une action répressive codifiée et normative. C'est dans ces mêmes murs qu'en janvier-février 1981, dans le cadre d'un colloque intitulé justement « Le refus de l'oubli », consacré à la politique de disparition forcée de personnes, l'avocat Emilio Fermín Mignone du CELS, en l'absence de son collègue Auguste Ponte MacDonald, interdit de sortie du territoire par dictature militaire, déterminait les principales caractéristiques de l'action répressive déployée depuis 1974, nous dirions aujourd'hui depuis 1971, par les forces armées et de sécurité argentines, et plus encore à partir du 24 mars 1976, date du coup d'État contre le régime constitutionnel, reposait sur deux niveaux normatifs. Le premier, le caractère public, constitué par l'ensemble de règles approuvées avant et après le 24 mars 1976, destiné à pourvoir d'un cadre formel l'action institutionnelle du processus de réorganisation nationale non officielle de la dictature des juntes. Le second, de caractère secret, mais susceptible d'être reconstitué grâce aux faits, aux témoignages et composé d'ordres et de règles d'organisation et d'action proposées par les services de renseignement et les états-majors des trois forces et approuvés par leurs commandements respectifs. Les auteurs désignent ce dispositif bifront de doctrine du parallélisme global, établissant la jonction entre un état d'exception devenu pratiquement la règle générale depuis 1969 et cette conception qui ont été inspirées pour l'essentiel par la pensée et les propositions des officiers français qui participèrent aux luttes coloniales d'Indochine et d'Algérie et par ce qu'on nomme la doctrine de la sécurité nationale, et j'ouvre une parenthèse, aujourd'hui introduite, soit dit en passant, dans notre dispositif étatique français depuis la rédaction du livre blanc de la défense et de la sécurité nationale rédigé entre 2007 et 2008. Étrange discours. C'est au cœur de ce dispositif constitutif d'un état dual et de hiérarchie parallèle que se situe la pratique de la disparition forcée, dont l'objectif, comme nous le verrons, s'il est bien celui d'exterminer l'opposant social et politique en détruisant également sa culture, propage la terreur de masse. Nous n'avons pas le temps ici de rendre compte du système répressif de la AAA émanant du ministère du Bien-être Social de la période du gouvernement Perón à partir de 1973. Nous voudrions toutefois citer un témoignage que nous avons trouvé dans le cadre de la recherche menée sur le terrain avec la docteure Monica Padrón, professeure de médecine à l'Université de La Plata et fonctionnaire du ministère de la Santé actuel. Il s'agit du fonctionnement des hôpitaux qui deviennent à leur tour tant des cibles de la répression que des lieux de détention et d'interrogatoires clandestins. Ils se montent ainsi dans le cadre de l'hôpital Posada de Buenos Aires, comme l'a rapporté Marta Jal, syndicaliste de la santé et infirmière à l'époque où ce dispositif va également être implanté dans d'autres hôpitaux, dont l'hôpital Saint-Roch et Degolette à La Plata, et au cœur de l'hôpital naval Rio Santiago de La Plata, faisant partie intégrante de ce qu'on a appelé par la suite un circuit spécifique de disparition forcée dans la province de Buenos Aires, le circuit Camps, du nom du général qu'elle avait pris la direction, placé à la tête de la police de la province de Buenos Aires. Ce témoignage est important, car il renvoie aux infrastructures hospitalières comme base clandestine du dispositif répressif. C'est ainsi que Marta Jana nous dit « Les religieuses françaises Alice Daumont et Léonie Duquet seraient passées justement par cet hôpital militaire après avoir été enlevées. Dans cet hôpital, il y avait des micros et des téléphones sur écoute. Et au moment de sortir, les employés devaient utiliser un mot de passe qui était changé quotidiennement. Si on ne le faisait pas, ils nous descendaient avec un fan. Il y avait des gens armés partout. Tout le monde savait que les religieuses françaises étaient au premier étage, suivi des personnalités, et que l'amiral Emilio Massena y faisait des visites. Après, il y avait un étage dans l'hôpital auquel on n'avait pas le droit d'accéder et qui était surveillé par un officier armé. On m'y a emmené les yeux bandés pour placer le son de nasogastrique sur un jeune homme qui était attaché à son lit, une capuche sur la tête et couvert de sang. La morgue de l'hôpital était sous la garde de militaires. Il y avait là des cadavres qui ne correspondaient pas à ceux de nos patients. Et pendant la nuit, des camions sortaient depuis le BIN, bataillon d'infanterie de marine numéro 3, qui partageait le même terrain de l'hôpital. Lorsque ces camions sortaient, on disait aux officiers « robinet ouvert », ce qui signifiait qu'ils devaient vider leurs chargeurs sur les détenus et ainsi occulter qu'ils avaient tiré. Qui avait tiré? Il y avait des sous-officiers et des officiers qui se vantaient d'avoir gardé les vêtements des détenus exécutés, les blousons de cuir et les chaussures. Il y aura également des maternités clandestines dans lesquelles accouchent des femmes disparues, enceintes, torturées et dont les bourreaux intègrent des réseaux d'adoption illégales où des juges participent à la rédaction de faux certificats de naissance afin qu'ils soient adoptés par leurs bourreaux précisément ou par des amis ou des gens en relation avec eux. Les mères, après leur accouchement, étaient exécutées dans le cadre d'un transfert ou d'un vol de la mort pendant lesquelles elles étaient précipitées vivantes d'un avion en plein océan. Ce sera là une cause judiciaire de condamnation de crimes de génocide, puisqu'on s'attaquait à un groupe spécifique à travers sa descendance. La jurisprudence argentine est sur ce point remarquable. Mais la disparition forcée est aussi une technologie. C'est un processus qui ont connu tous les disparus et qui sont passés par ces fameux centres clandestins de détention dont nous avons la carte maintenant, on a connu, grâce au travail des chercheurs argentins, dont la répartition sur le territoire argentin est aujourd'hui justement connue. Il s'agit bien d'un processus, voire d'une procédure, reposant sur un bloc de normativité technique, c'est-à-dire une doctrine qui fixe, comme nous le verrons, le type et les modalités d'action de l'État devenu terroriste par et dans l'application de cette doctrine. La disparition forcée, c'est un processus technique. Témoignage de Céline à Benfield. C'était 3h du matin, l'arrestation. Je me suis rapproché de la porte et j'ai demandé « Qui est là ?» Joaquin, le concierge, il s'agit d'une urgence. J'ouvre, on me jette au sol, on me met les mains dans le dos, on me passe les menottes. Une botte militaire sur le dos. J'essaye de regarder, on me passe une cagoule sur la tête. On me couvre d'un par-dessus, sur ma chemise de nuit. On étire hors de mon appartement en faisant dévaler les escaliers. On me frappe lorsque je trébuche et je ne vois rien. Le froid dans la rue me fait trembler. C'est la peur. On me jette dans une voiture. À l'arrière, on me plaque au sol, couvert d'une couverture malodorante. Le trajet fut long. Je me souviens que je tremblais. Les poumons m'ont étourdi. Je suis totalement déconnecté de la réalité. Brusquement, la voiture s'arrête et on me sort de la voiture à coups de poing et de pied pour me jeter dans un lieu poussiéreux et crasseux. De là, on me fait passer à la salle d'opération, comme ils disent. Je ne sais pas qui ils sont. En me hurlant dessus, ils me déshabillent. Et c'est la torture. La gégène, le supplice de la baignoire, les cris, les coups de pied, des chaînes. Pourquoi ? Poursuivre. Réveille-toi, debout. Baisse le bandeau qui te couvre les yeux. Tu es ici, P44. Tu n'as pas de nom. Le CDD devient un espace alors, le centre clandestin de détention, nous avons la carte maintenant, est un espace organisé par peur de la mort. Selon de nombreux témoignages, apparaît alors un dispositif d'organisation physique de l'espace, avec deux variables fondamentales, le système des cellules et celui des couchettes. Ces dernières étaient constituées de compartiments d'agglomérés sans toit, de quelques 80 cm de largeur, comme le dit Pilar Calvaillon, sur 2 mètres de long, compartiment dans lequel pouvait tenir une personne couchée sur un matelas de mousse. Une cloison latérale avait environ 80 cm de hauteur afin d'empêcher tout contact visuel entre les prisonniers, mais permettant un garde debout ou assis de contrôler simultanément l'ensemble tel un petit panoptique. Une ouverture assurait la sortie du prisonnier. En ce qui concerne les cellules, elles pouvaient contenir une ou deux personnes, bien que souvent, il pouvait y en avoir plusieurs. La dimension était de 2,50 m sur 1,5 m, avec des matelas en mousse. La porte comportait un judas. Dans d'autres lieux, comme dans le CCD mention serrée, les personnes étaient littéralement jetées sur le sol avec un bout de caoutchouc. Finalement, il ne s'agissait que d'un système de compartiments ou de containers, afin de garder et de contrôler des corps, pas des êtres humains. Dès son arrivée donc, le prisonnier perdait son nom et lui était attribué un numéro. Son identité disparaissait, dont le point final était le NN. La fosse avec ses lettres, pour no name, soi-disant, ce qui n'est pas non plus sans rappeler évidemment le décret Nacht und Nebel du régime nazi. Les détenus étaient attachés de façon permanente et couverts d'une capuche, ou les yeux bandés. Ils pouvaient être également menottés, ou comme à la ESMA, l'école supérieure mécanique de la marine, avoir les jambes entravées par des chaînes. Dans ce CCD mention serrée, les personnes étaient maintenues dénudées de façon permanente, et pour dormir, les jambes étaient attachées et repliées. Tous les témoignages de survivants renvoient ainsi à la permanence de l'obscurité, du silence, de l'immobilité. Alors passe le moment du transfert. Selon un programme établi au fil des opérations menées sur la base des renseignements obtenus sous la torture, l'expérience se soldait par le transfert, ou le vol de la mort, c'est-à-dire une exécution sommaire, individuelle ou parfois collective des prisonniers. L'effet de surprise et l'imprévision, c'est à relever, ça reviendra dans les doctrines militaires que nous allons voir tout à l'heure, était apparent et voulu pour éviter tout durcissement des prisonniers lors des interrogatoires. Enfin, la terreur et l'effet recherché. Ce système tenait aussi comme espace de production de la terreur, de la dissémination et sa dissémination. En effet, dans les CCD, si l'on pouvait trouver des militants politiques ou des syndicalistes et des défenseurs des droits de l'homme, on pouvait également trouver des personnes qui avaient été les témoins des enlèvements, des innocents pris dans des opérations de ratissage ou de simples contrôles d'identité, ou le fruit de processus crapuleux dirigés par des militaires, comme dans le cas de la famille Greyer, qui s'est vu déposséder de tous ses biens industriels. Des lycéens, des enfants pouvaient être également portés disparus, sans compter le terrible jeu des abus sexuels impunis. C'est l'ensemble de la société qui se trouvait dès lors embarquée dans ce processus de terreur. Même la clandestinité était un mensonge. certains centres clandestins de détention étant situés en pleine ville, comme le barrage Olympe, il était possible d'entendre de nuit les va-et-vient des voitures banalisées et les cris des suppliciés. La clandestinité était un leurre et servait à rendre palpable le mystère et faire souffrir les imaginations des vivants. Il fallait produire la terreur généralisée, elle aussi avait été pensée et codifiée. Et nous en venons à la doctrine qui doit être ici en question, celle des hiérarchies parallèles et de la terreur sociologique. Nous sommes là, c'est le colonel français Lacheroy qui, analysant le premier le système de l'ennemi dans la guerre d'Indochine, fit une trouvaille, la hiérarchie parallèle. Celle-ci repose sur cette découverte de l'appareil clandestin du Viet Minh, cette structure complexe, associative, politico-militaire et administrative, qui empêche toute infiltration d'agents dans la zone qu'ils contrôlent, non seulement territorialement, mais aussi verticalement, à travers des organisations dédoublées par le Parti communiste de Viet Minh, dirige ainsi tout un quasi-État avec ses institutions. Mais ce que fait Lacheroy dans Une arme du Viet Minh, les hiérarchies parallèles, c'est le titre du premier texte qui pose cette question, en 1952, et qui va être intégré dans les cours de formation des cadres territoriaux de l'armée française, mais aussi de l'armée argentine, comme l'État des Argentins, de l'État latino-américaine. Il est dit, les habitants sont enfermés dans un système de coercition d'une perfection machiavélique dont il est très difficile de s'évader, à l'intérieur duquel il n'y a de place que pour le dévouement ou au moins l'obéissance. Ce système est celui des hiérarchies parallèles. Selon Lacheroy, le système colonial, totalement dépassé par la situation, a fait de la dictature la solution en Indochine. D'un côté, une justice débonnaire dans une démocratie vénale et détendue, de l'autre, une dictature populo-politico-militaire relativement pure, toujours dure et quand il le faut cruelle. Solution, dit-il. On objectera qu'il ne nous est pas possible d'avoir recours à des procédés que nous condamnons, à des formules dictatoriales de conduite de la guerre, alors que nous luttons contre la dictature et que sur le plan international, le nouvel État du Vietnam, par contre-coup, la France, prendrait une position indéfendable. Il faut savoir ce qu'il faut. Dans le domaine militaire pur, quand un des adversaires prend l'initiative de mettre en œuvre une arme nouvelle, je souligne, plus ou moins défendue par la réglementation internationale, je souligne, l'autre adversaire ne se contente pas d'épiloguer sur son aspect déloyal, voire révoltant pour la conscience humaine. Et voilà la conclusion. En refusant de nous en servir, nous nous comportons aussi sottement que les premiers Malouas en présence des armes à feu. La lutte, parvenue au degré d'âpreté qu'elle a atteint, ne se gagnera pas sans une mobilisation totale et dure des arrières et l'adoption par le gouvernement vietnamien à l'époque de l'arme des hiérarchies parallèles. Maintenant, cette formule, nous la connaissons bien, c'est l'arme des hiérarchies parallèles. Sa mise en œuvre relève d'une technique parfaitement au point et infaillible. C'est à l'articulation de l'horizontale et du dimension territoriale et du vertical, l'organisation bureaucratique, que se situe le point central des actions argentins, des systèmes argentins et français à Alger en 1957, et de la mise en action des structures parallèles de coercition, des groupes d'action mixte armés de la bataille d'Alger et autres groupes des Tarea, GT. C'est en juillet 1956, dans un entretien à la revue des forces terrestres, publié sous le titre de Contre-guérilla, que le colonel Trinquier prévient du déploiement de la future structure répressive qui va implacablement s'abattre sur l'Algérie. Pour que l'habitant échappe à la pression et au contrôle des rebelles, pour qu'il devienne utilisable à notre profit, nous devons le rendre commandable, c'est-à-dire le faire entrer dans l'organisation hiérarchisée dont nous avons parlé, englobant l'ensemble des populations qu'un chef pourra contrôler jusqu'à l'échelon individuel. Personne ne devra avoir la possibilité d'y échapper, afin que chacun puisse à tout instant répondre aux ordres donnés. Par ce contrôle des masses, par une stricte hiérarchie, et souvent même par plusieurs hiérarchies parallèles, et pratiquée dès l'abord par les rebelles, dont il est la pièce maîtresse, et auquel il permet d'accéder rapidement à la présence dans tous les éléments qui leur seraient hostiles. Et il y a un cours qui va être donné au centre d'instruction de pacification de contre-guérilla à Arzeux, où on sait que des officiers argentins ont participé à ces cours lorsqu'ils étaient en France. Tous les officiers français et officiers argentins qui se sont croisés sur les bancs de l'école de guerre de Paris sont allés, puis après se sont retrouvés en Argentine, sont allés au sein des états-majors, des forces armées, et ont été mis au courant des cours de guerre et d'action psychologique. Il est un point essentiel ici. Il y a eu des cours organisés en France pendant cette période de circulation de la doctrine militaire contre-insurrectionnelle française de la guerre révolutionnaire sur le thème justement de la terreur sociologique. C'est ainsi que parmi les cours du CIPCG de Harzeux, qui est une ville qui se situe près de Oran, l'un d'entre eux porte précisément sur l'utilisation de la psychologie de la peur. Ces cours, nous reproduisons ainsi un terme essentiel, y compris dans leur prosaïsme, date de 1956. C'est-à-dire que nous sommes à quelques mois du début des grèves insurrectionnelles qui devra marquer le déclenchement de la bataille d'Alger. Que dit ce texte? Je le cite avant de conclure. La propagande par la terreur, c'est l'utilisation de la psychologie de la peur. Il y a deux catégories de peur. La peur active, celui qui fuit. La peur passive, celui qui est paralysé. Dans la peur, l'homme ressent beaucoup moins la souffrance. Exemple, le blessé. C'est dans la mesure où la peur amenant une diminution des souffrances, que certains soldats sera héroïque. La terreur joue sur deux instincts, passif, actif. Objectif d'utilisation de la terreur, faire adhérer au groupe qui la manipule. La peur aboutit à faire adhérer tout. Terreur sociologique, notion sociologique. Pour qu'il y ait terreur, il faut qu'il y ait silence. Le silence donne une puissance d'émotivité au moindre bruit. Le silence sociologique est représenté par le secret, l'ignorance de certaines préparations politiques. La terreur se pose dans un silence sociologique, l'irruption mystérieuse et violente d'un événement insolite. Exemple de 1956. Le camp de concentration, zone de silence, puis brusquement de rassemblement où on désigne 20 condamnés à mort. Exemple, l'assassinat de Reux en 1934 au milieu d'une période de forêt. Effet de la terreur, elle est considérée comme se multipliant dans le groupe social par simple contact. Elle a un puissant potentiel de dégradation en panique. Possibilité machiavélique, dégrader la terreur en panique et contrôler la panique en se présentant comme sauveur. La vague de terreur provoque une longue période de dépression. La masse devient neutre et amorphe. Elle peut convaincre les neutres. Conclusion. Pour conclure, cette présentation, nous aurions posé deux questions relatives premièrement à la présence des officiers français au sein de l'état-major des forces armées argentines entre 1957 et 1983, connue sous le nom de mission française, où le contenu des cours et conférences était exactement celui que nous avons analysé ici. Alors, sur le plan juridique, sur le plan pénal, comment désigne-t-on une personne qui enseigne des pratiques qui relèvent du terrorisme d'État, qui est intégrée hiérarchiquement à l'appareil qui en fait la gestion, et qui, de plus, serait de la même nationalité que les victimes dont nous commémorons aujourd'hui la disparition forcée? Ne s'agit-il pas de complicité de crimes contre l'humanité? Si je collabore à l'étranger, à l'assassinat d'un compatriote, ou si je collabore à l'organisation criminelle qui l'élimine, ne suis-je pas objectivement un complice sur le plan pénal? Et en l'occurrence, complice d'un crime imprescriptible, la disparition forcée relevant de la qualification de crime contre l'humanité. Seconde question, ou plutôt une demande. Cette doctrine, qui tend en Argentine comme au Rwanda, a aboutit à la commission de crimes qualifiés de crimes de génocide devant la justice pénale nationale, dans le cas argentin, ou internationale, comme dans le cas rwandais. Nous avons vu que ses principaux concepteurs la considéraient comme une arme de guerre. Ne peut-on, à l'instar des campagnes contre les mines antipersonnelles ou contre l'usage du napalm, concevoir ce management normatif si particulier de la violence d'État comme illégal? Car pour l'essentiel, la pratique des hiérarchies parallèles et autres sociologies de la terreur de masse font terminer ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre devant les tribunaux pour des crimes contre l'humanité. C'est bien là ce que nous devons à nos disparus. Je vous remercie.